Radio Prague, les informations. Bonjour, le ministre de l'Éducation a donné son feu vert au projet européen de laser ELI. Deux diplomates tchèques dirigeront les délégations de l'Union européenne au Soudan et au Guyana. Et puis enfin, l'ancien premier ministre social-démocrate, Jiří Paroubek, poursuit la création de son propre parti politique. Le projet européen ELI, qui prévoit la construction du principal élément d'un laser ultra puissant unique au monde dans la commune de Dolní Břežany, dans la banlieue de Prague, a été approuvé par le ministre de l'Éducation, Josef Dobeš, ce mercredi. La Commission européenne, qui le financera, avait déjà donné son feu vert en avril dernier à la réalisation du projet, dont le montant est estimé à 300 millions d'euros rien que pour la partie tchèque. Celle-ci reste cependant pour l'heure confrontée aux prix élevés des terrain et parcelles nécessaires à Dolní Břežany, le montant estimé de leur éventuel achat dépassant le budget alloué par l'Union européenne. Le projet ELI, qui devrait être opérationnel en 2014, réunit 13 pays membres et une quarantaine d'instituts de recherche et d'universités. Deux diplomates tchèques figurent parmi les 25 nouveaux chefs de délégation de l'Union européenne dans le monde. Il s'agit de Tomáš Uliční, qui sera à la tête de la délégation au Soudan, et de Robert Kopecký, qui dirigera lui la représentation européenne au Guyana. Les Tchèques occuperont désormais trois hautes fonctions au sein de la diplomatie européenne. L'ancienne eurodéputée Jana Hibašková avait déjà été nommée ambassadrice de l'Union européenne en Irak en janvier dernier. Les autorités tchèques ont condamné l'attaque brutale lancée par le régime syrien contre les civils à Hamas. L'intervention de l'armée syrienne, qui a fait une centaine de morts, a été qualifiée de massacre par l'Union européenne. Dans un communiqué publié mardi, le ministère tchèque des Affaires étrangères a appelé le régime syrien à l'arrêt immédiat des violences ainsi qu'au respect des droits fondamentaux de l'homme. La diplomatie tchèque estime le régime de Damas entièrement responsable des répressions contre les populations civiles. Elle juge inacceptable l'expulsion des journalistes étrangers et soutient la démarche des pays qui demandent l'adoption d'une résolution de l'ONU sur la Syrie. L'ancien Premier ministre et président du Parti social-démocrate ČSSD, Jiří Paroubek, a confirmé ce mercredi qu'il poursuivait la création de son propre parti politique en retrait depuis la défaite de la social-démocratie aux dernières élections législatives en mai 2010. Jiří Paroubek, actuellement député, a indiqué que les préparatifs seraient achevés au plus tard cet automne, moment choisi pour présenter son nouveau parti au public. Jiří Paroubek a déclaré qu'il était déçu par la politique menée actuellement par le ČSSD. L'ancien chef du gouvernement n'a pas donné plus de détails sur l'orientation et le nom de son nouveau parti. Jiří Paroubek s'est contenté de préciser qu'il ne travaillait pas seul sur l'élaboration du programme. Le nombre de commandes et le montant des dépenses d'investissement dans l'industrie tchèque devraient stagner au cours du second semestre de cette année. Les salaires augmenteront également moins que ce qui était initialement prévu. Tels sont quelques-uns des principaux enseignements qui ressortent de l'étude réalisée auprès de plus de 200 entreprises par la Fédération de l'Industrie et des Transports de République tchèque et la Banque de République tchèque. Ces résultats ont été présentés ce mercredi. Selon le président de la Fédération de l'Industrie et des Transports, le principal problème est l'augmentation des prix des facteurs de production. Une statue de l'ancien président Václav Havel, créée par la jeune plasticienne Barbora Daušová, a été installée au café Slavia à Prague, où elle sera exposée jusqu'à fin septembre. La statue grandeur nature représente l'ex-président non pas comme un homme politique, mais comme un écrivain. Elle est exposée pour la première fois l'année dernière au festival de la bière Pilsner Fest, où elle avait été dérobée par un inconnu et retrouvée endommagée. Située en face du Théâtre National, rue Narodny, le café Slavia a été, dans les années 1950 et 1960, un lieu de rencontre des intellectuels et artistes tchèques opposés au régime communiste. On termine avec un mot de météo. Après une journée de mercredi largement ensoleillée, le retour des nuages et de la pluie est attendu sur la majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Dominiques. Cette tendance à la grisaille devrait se maintenir au moins jusqu'à la fin de la semaine. Les températures varient entre 20 et 27 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Larguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Magdalena Rosinko.
Faits et événements en République tchèque. Bonjour à toutes et à tous et merci à Guillaume Narguet pour ce bulletin d'information. À la une de l'actualité, la rencontre pragoise des fondateurs et professeurs des écoles tchèques sans frontières. Cette structure, créée par des bénévoles, permet aux enfants tchèques vivant à l'étranger de rester en contact avec la langue et la culture de leur pays d'origine. Nous parlerons ensuite des enfants de parents divorcés qui sont dans certains cas placés dans des hôpitaux psychiatriques. Cette démarche fait débat dans la société tchèque. En ce début du mois d'août, le Centre tchèque de Prague a accueilli la troisième rencontre internationale des fondateurs et professeurs des écoles tchèques sans frontières. Ces écoles ont été mises en place dans une vingtaine de villes européennes, les écoles partenaires se trouvant également en Amérique et en Australie, par des bénévoles, souvent par des mères d'enfants tchèques vivant à l'étranger, faute d'une quelconque initiative de l'État tchèque dans ce domaine. Les écoles proposent aux enfants, issus essentiellement de couples mixtes, l'enseignement de la langue, la littérature, l'histoire et la géographie tchèque. Les enfants âgés de 18 mois à 15 ans se rencontrent une ou plusieurs fois par semaine, surtout les week-ends, pour des cours et d'autres activités assurées par des bénévoles érudits. La première école de ce genre a été fondée en 2007 par le médecin Lucie Boucher-Slavikova auprès du Centre tchèque de Paris. Elle se réjouit du succès de son projet, soutenu financièrement par le gouvernement tchèque.
C'est vrai que quand j'ai présenté hier la carte du monde avec tous les points colorés où on se trouve, où se trouvent les écoles partenaires, c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux. Nos élèves sont également de plus en plus nombreux. L'école qui va ouvrir en automne est celle de Francfort en Allemagne. Ils vont avoir 85 enfants. En plus, il y aura des écoles en Italie, à Naples et à Rome. Florence réfléchit à l'ouverture à partir du 1er janvier. Il y a un centre qui voudrait se joindre à nous à Lisbonne. Et là, je viens juste recevoir un email de la part du consulat général à Los Angeles, comme quoi ils ont 45 familles bilingues intéressées par notre enseignement.
Maintenant, à Prague, vous avez fait le bilan de vos activités. Quelle est la situation des écoles tchèques sans frontières donc en 2011?
En 2011, on est vivant, on est nombreux. Notre système d'enseignement est relativement standardisé. Nous avons écrit un programme d'enseignement qui est écrit en harmonie avec le programme d'enseignement du ministère de l'Éducation nationale. Nous collaborons beaucoup entre différentes écoles. Nous avons commencé à organiser des séminaires d'enseignement pour les profs. On a fait la première séance d'un week-end à Paris au printemps. Et puis on va recommencer en automne, donc l'histoire d'offrir à nos pédagogues la possibilité de parfaire leur éducation et leur savoir-faire dans certains domaines spécifiques de notre enseignement qui est quand même un tout petit peu différent.
Est-ce que vos professeurs sont payés ou c'est toujours le système des bénévoles en fait?
C'est majoritairement le système des bénévoles. Ça dépend un peu des écoles parce que les écoles où, par exemple, il y a juste deux classes de quelques élèves, il est plus facile de rémunérer un peu les profs que dans, par exemple, à Paris où on a beaucoup plus de classes, donc du coup on a besoin de beaucoup plus de profs, donc ça coûte beaucoup plus cher.
Et l'année dernière, vous avez dit à Radio Prague que votre but était d'obtenir une certification de la part du ministère de l'Éducation nationale. Donc, quelle est la situation maintenant?
Le but est toujours le même.
Est-ce que l'objectif est de faire reconnaître ces écoles comme des écoles à part entière par l'État tchèque?
Oui, ça serait l'objectif parce que je pense que c'est ça ce qui augmentera aussi la valeur même dans les yeux des parents. Une école qui est reconnue, une école tchèque qui est reconnue par l'État tchèque, dont les parents peuvent se servir même à l'avenir, je pense que ça augmente nettement sa valeur.
Retrouvez Lucie Slavikova jeudi dans les Tchèques célèbres et moins célèbres. La Cour constitutionnelle tchèque a donné raison à Alena Davidova, mère d'un fils de 10 ans placé par la justice en hôpital psychiatrique parce qu'il était devenu l'enjeu d'une guerre que se livraient ses parents pour obtenir sa garde. L'affaire a déclenché un débat public sur le triste sort des enfants des parents divorcés. Václav Richter.
Le jeune garçon a déjà passé 6 mois dans un établissement psychiatrique parce que la Cour régionale espérait réduire ainsi l'influence maternelle sur cet enfant et lui permettre de renouer les liens avec son père. Cette première tentative ayant échoué, le garçon devait retourner à l'hôpital, mais la mère s'est opposée à ce verdict par sa démarche auprès de la Cour constitutionnelle et a eu gain de cause. Selon le juge constitutionnel Vladimir Kurka, le verdict ne concerne pas uniquement ce cas individuel, mais sa portée générale.
Lze celkem spolehlivě vyvozovat z toho našeho nálezu, že při nařizování takových opatření.
Il est possible de déduire de notre verdict que dans la situation où les organes compétents prennent des mesures qui arrachent l'enfant du milieu familial, même si c'est un milieu créé par un seul parent, il faut procéder avec circonspection et prudence et choisir les moyens les plus modérés qui pourront encore servir l'objectif visé.
Volit prostředky co nejmírnější, které ještě budou způsobilé sloužit k tomu účelu.
Le juge estime cependant que les hôpitaux psychiatriques pourraient jouer un rôle positif dans de tels cas s'ils créent des sections spécialisées pour ce genre d'hospitalisation. La majorité des participants au débat que l'affaire a provoqué dans les médias refusent le séjour en établissement psychiatrique comme moyen de renouer les liens familiaux brisés par un divorce. Sous cet angle de vue, le fils d'Alena Davidova apparaît comme une victime de la machinerie judiciaire. Dans de tels cas, l'hospitalisation de l'enfant est considérée aussi comme un moyen pour obliger les parents à communiquer. Le psychiatre Jiří Švarc rappelle cependant que les organes compétents disposent d'autres mesures pour faire pression sur les parents divorcés.
Cet effet dissuasif peut être atteint par des moyens bien moins brutaux que l'hospitalisation en établissement psychiatrique. Le parent peut être traduit en justice, le tribunal peut changer sa décision sur la garde de l'enfant. Les tribunaux devraient donc oser prendre d'autres mesures et ne pas placer l'enfant en hôpital psychiatrique.
Dans ce genre d'affaires, l'enfant devient une espèce d'otage des parents qui n'arrivent pas à trouver un langage commun. Il est évident qu'il n'en sortira pas indemne et qu'il sera marqué à vie par un tel règlement des comptes. Zuzana Baudichova, présidente de la fondation Nachedite, notre enfant, souligne que l'enfant doit être protégé contre la rivalité de ses parents.
Bien que la Cour constitutionnelle ait pris une décision en faveur de ce garçon, personne n'a encore obligé les parents à trouver un compromis sur son sort. J'espère que maintenant, les parents seront forcés, par une amende ou par une procédure pénale, à cesser de tourmenter ce pauvre garçon et à chercher activement un compromis, éventuellement qu'ils seront eux-mêmes obligés d'entrer en hôpital psychiatrique.
L'affaire devrait maintenant passer devant la Cour d'appel qui doit cependant prendre en considération la décision de la Cour constitutionnelle.
8 novembre 1620, les armées protestantes de Bohême sont défaites par les troupes habsbourgeoises catholiques, mettant un coup d'arrêt définitif à la liberté de confession en pays tchèque et amorçant le processus de la contre-réforme. Avec Nicolas Richard, doctorant français en co-tutelle entre Paris et Prague, Anna Kubishta s'est intéressée à son sujet de thèse consacré au clergé catholique dans la période qui a suivi cette fameuse bataille. Nous vous proposons la première partie de cet entretien.
Chapitre de l'histoire.
Nicolas Richard, vous êtes doctorant et vous venez de passer une année dans le cadre de votre thèse au CEFRES à Prague. Votre thèse, vous la faite en co-tutelle entre l'Université Charles de Prague sous la direction du professeur Martin Neyedli et l'Université de Paris-Sorbonne où votre directeur, c'est le professeur Olivier Chaline. Et alors, vous vous intéressez dans vos travaux de recherche aux conséquences de la Montagne Blanche en Bohême. Alors tout d'abord, première question, pourquoi avoir choisi cette époque et cet événement en particulier ?
Alors, pour être exact, ce qui m'intéresse et n'est pas tout à fait les conséquences de la Montagne Blanche, mais plus exactement l'action du clergé paroissial dans la période qui va de l'épiscopat du cardinal Harrar, donc à partir de 1623, jusqu'à la mort de Mgr Breuner en 1710. Et là, c'est de voir comment, d'une population qui était à 90% non catholique, On en est venu, dès la fin du XVIIe siècle, à une population qui est très majoritairement catholique, et non pas simplement catholique parce que le catholicisme est la seule religion autorisée, mais aussi catholique parce que c'est la religion qui correspond à leurs convictions personnelles, même s'il reste bien sûr des poches de protestantisme. Donc c'est un basculement extraordinaire qui est absolument sans exemple dans l'Europe du temps.
Alors justement, longtemps dans l'historiographie tchèque, on a parlé de la période des ténèbres, on appelle ça temno en tchèque, pour l'après-Montagne Blanche. En gros, le pouvoir habsbourgeois et catholique reprenait la haute main sur la bohème rebelle, hérétique, étouffée dans l'œuvre toute velléité de dissidence. En tout cas, ça a été un peu l'interprétation qui a été faite à partir du moment du réveil des nationalités au XIXe siècle. Et puis les communistes eux-mêmes se sont pas mal identifiés justement et se sont un peu réappropriés les hussites, l'histoire hussite. Alors aujourd'hui, est-ce que ce clivage un peu noir et blanc est dépassé? Est-ce qu'on peut étudier justement l'après-Montagne Blanche avec plus de sérénité?
En fait, on peut bien sûr étudier la place de la Montagne Blanche dans l'esprit national tchèque depuis le XIXe jusqu'à nos jours. Mais c'est un sujet qui est un sujet en soi, et c'est un sujet qui a des historiens, et qui a des historiens qui sont extrêmement talentueux, mais ce n'est pas du tout l'objet de ma thèse. Il m'est donc très difficile de juger et de savoir si actuellement, dans la société tchèque, la Montagne Blanche soulève encore les passions ou ne les soulève plus. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'une fois j'étais à un dîner avec le directeur d'une entreprise tout à fait importante, et quand je lui ai dit que je travaillais sur le XVIIe siècle, il a fait les gros yeux et il m'a dit que c'était horrible parce que c'était l'époque où les chariots des hussites avaient été vaincus par les Allemands à la Montagne Blanche. Alors je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu le moindre chariot hussite à la Montagne Blanche. Ils avaient sans doute tous disparu à la bataille de Lipany 2 siècles avant. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a beau être directeur d'une belle entreprise, ça ne dispense pas d'apprendre un peu l'histoire et que c'est l'ignorance qui permet toutes les manipulations. D'un autre côté, il est certain que dans l'historiographie tchèque, il y a, c'est légitime, c'est normal, un certain nombre d'oppositions qui ne sont pas simplement des oppositions purement intellectuelles, mais qui reflètent aussi des positions politiques. Alors en tant que Français, j'ai la chance de me sentir tout à fait étranger à ces polémiques. Et c'est une chance, c'est aussi une difficulté, parce que comme je n'ai pas baigné depuis mon enfance dans l'histoire tchèque, j'aurais beau faire, je ne serais jamais aussi compétent et aussi érudit qu'un historien tchèque sur sa propre histoire.
Alors justement, après cette bataille, cette fameuse bataille de la Montagne Blanche, un peu, les églises baroques recouvrent la Bohème un peu d'un blanc manteau, pour paraphraser un chroniqueur de l'époque romane. Au XVIIe siècle, on pourrait d'ailleurs y rajouter un blanc manteau tissé d'or, hein, au vu de la profusion des richesses dont l'église catholique les remplit. Alors le baroque, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, hein, de la contre-réforme. Au quotidien, justement, comment le paroissien de Bohème vit-il cette contre-réforme?
Les églises baroques sont des documents historiques comme les autres, peut-être plus agréables à regarder que des papiers d'archives à moitié déchirés et avec une paléographie difficilement déchiffrable. Mais de toute façon, ces églises baroques, il ne faut pas les séparer de la civilisation qui les a produites. Votre comparaison avec Raoul Glaber, qui parle de Candidam Ecclesiarum Vestem Indueret, pour désigner le grand mouvement de reconstruction et d'embellissement des églises en France et en Italie autour de l'an 1000, cette comparaison semble assez exacte parce qu'on assiste dans la Bohème baroque à un certain nombre de ces vagues de reconstruction d'églises. Tout d'abord à la fin de la guerre de 30 ans, après les destructions énormes qu'a connues la Bohème, il est nécessaire de réparer les églises. Ensuite, au début du XVIIIe siècle, puis tout au long du XVIIIe siècle, on a des vagues et des vagues de reconstruction d'églises, ce qui fait qu'actuellement, quand on parle du baroque et qu'on pense aux églises baroques bohèmes, on ne parle pas vraiment du baroque du XVIIe siècle, mais surtout du XVIIIe siècle, puisque la plupart des églises baroques que nous voyons aujourd'hui sont des églises du XVIIIe siècle. Autant celles du XVIIe siècle répondaient à une nécessité, celle de reconstruire un patrimoine qui a été détruit pendant la guerre, autant celles du XVIIIe siècle sont le fruit d'une émulation entre les communautés, entre les seigneuries, pour toujours reconstruire une église plus belle que celle du voisin. Donc il est certain qu'il s'agit vraiment là d'un phénomène tout à fait comparable à celui que décrit Raoul Glaber.
Alors justement, après, au niveau simplement du paroissien moyen, comment est-ce que justement les catholiques reconquièrent finalement leur brebis perdue.
Voilà, alors si on revient à nos églises, Quelle est la place du paroissien dans ces églises? Est-ce que le paroissien se voit imposer une architecture qui lui est étrangère, qui est d'origine italienne, et que l'Église catholique, soutenue par des magnats et des grands seigneurs étrangers, fait reconstruire dans les villages et les villes de Bohême? Ou est-ce que ces églises sont une création collective de toute la population? Alors, pour ça, il faut voir qui paye pour ces églises. Qui paye pour ces églises, ça permettra de voir à quel point les gens s'impliquent peu à peu dans la construction de l'église, qui est le symbole tangible dans la pierre de la religion. Alors, le peuple des campagnes n'a certainement pas les moyens de payer le gros œuvre, n'a pas du tout les moyens de payer les murs, les toits, etc. Et les églises, de ce point de vue-là, sont faites aux frais du Seigneur, même si c'est le plus souvent la corvée qui fournit la main-d'œuvre nécessaire pour les murs et pour les réparations de toits. Mais ce qui est certain, c'est que à l'intérieur de ces églises, on trouve tout un mobilier, des ornements qui ont la plupart du temps disparu, mais des objets qui sont en bois doré avec du plâtre, en matériaux non nobles, et ces objets, en règle générale, quand on regarde les archives et les inventaires paroissiaux, c'est le résultat de donations faites par les paroissiens. Les paroissiens n'ont pas les moyens de construire des chapelles entières, mais ils ont les moyens de donner des objets, et c'est sans doute ce qui explique la profusion de ces petits objets en bois dans les églises de campagne. On peut regarder en fait le paysage baroque comme une création collective, parce que c'est le seigneur qui dresse dans la seigneurie les grandes directions, c'est lui qui fera faire les grosses œuvres, mais pour les petites chapelles, pour les petites croix de carrefour et tout ça, on s'aperçoit que qui paye, ce sont soit les communautés locales, soit les principaux habitants des villages. Or, quel est le rôle de l'Église dans ces constructions de croix, dans ces constructions de chapelles, etc. On s'aperçoit, à partir environ de l'épiscopat de Monseigneur de Waldstein, donc là on est dans le troisième tiers, ou plutôt même dans le quatrième quart du XVIIe siècle, on s'aperçoit que désormais l'archevêque et les autorités ecclésiastiques cherchent à limiter ces constructions, qui sont des constructions qui sont faites sans licence et sans autorisation de l'archevêque, par les petites gens des campagnes, par les communautés locales, etc. Le clergé paroissial, en fait, cherche beaucoup plus à encadrer des phénomènes de construction religieuse, qui prouvent qu'il y a vraiment là l'adhésion à une certaine vision de la religion. Il cherche beaucoup plus à encadrer, à freiner ces constructions, plutôt qu'à les provoquer. Donc là, on voit qu'il y a eu, toujours dans ce paysage baroque, un basculement très clair, et qu'il ne s'agit pas de l'imposition de quelque chose d'étranger, mais d'une création collective où chacun joue son rôle, donc la masse de la population, la seigneurie et l'Église.
C'était Nicolas Richard au micro d'Anna Kubeshta, deuxième partie de cet entretien dans notre rubrique historique en septembre. Le programme de Radio Prague en langue française se termine. Magdalena Hrozinkova au micro vous remercie de votre attention.